Et si on partait sur Europe 1 tous les jours entre 16h et 18h, un grand voyage, deux destinations, une en France, une au bout du monde, juste pour le plaisir de rêver, c'est parti.
16h, 18h, et si on partait ? Philippe Googler.
Et aujourd'hui, un très beau voyage. Nous irons au pays du Kilimandjaro. Nous irons dans des réserves animalières immenses. L'une de ces réserves, qui s'appelle le parc du Selous, est plus grand que la Suisse. Je ne sais pas si vous imaginez les dimensions, avec des animaux magnifiques au milieu de tout ça. Nous irons dans le pays des Maasai, de Zanzibar. Il y en a des choses dans ce pays. Nous serons, après le flash de 17h, en Tanzanie. Et puis, juste avant, maintenant, nous allons découvrir une région dont le nom sonne un peu les vacances, sans qu'en même temps, on sache forcément exactement à quoi ça ressemble. C'est fascinant et en même temps un petit peu flou dans nos esprits. C'est le Tarn. Et nous aurons, pour le découvrir, l'un des plus grands explorateurs français avec nous. Pourquoi ne pas se contenter du meilleur, hein, après tout. Jean-Louis Etienne sera avec nous dans quelques instants, puisque c'est un homme du Tarn. Et évidemment, moi je ne me déplace pas sans mes amis voyageurs, avec Nathalie Hélal, par exemple. Bonjour Nathalie.
Bonjour à tous.
Nathalie Hélal, auteure, grande voyageuse. Je suis également avec Emmanuel Jarry.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Qui nous ramène les meilleures choses de toute la planète, et puis à manger. Et puis Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet.
On the road again.
On the road again. Alors le Tarn, où est-ce que c'est exactement ?
Bah écoutez, ça fait partie de la région Occitanie, département numéro 81. C'est au sud-ouest du sud-ouest, donc on n'est pas très loin de Toulouse. On est à droite de Toulouse pour localiser.
Sud-ouest du sud-ouest, c'est le Pays Basque, ça ?
Non, sud-est, pardon, au sud. Oh baby, j'ai fait une petite erreur de géographie. Là, on est au sud-est du sud-ouest.
Attention, je vous surveille.
Et en fait, on est encore dans l'aire d'influence de Toulouse, mais il y a une petite influence méditerranéenne quand même qui se manifeste déjà dans le Tarn. Donc c'est un croisement d'influences que j'aime beaucoup. Des terroirs qui sont très variés. On a du vignoble, on a des montagnes qui ne sont pas très hautes, mais quand même plus de 1000 mètres. On a bien sûr la rivière Tarn qui coule au milieu de ce département. Et tout au nord, on a des gorges, les gorges du Tarn à la frontière avec l'Aveyron.
Voilà, mais les gorges du Tarn ne sont pas dans le Tarn.
Elles ne sont pas dans le Tarn, voilà. Mais il y a quand même sa rivière qui coule au milieu du département.
Absolument. Bon. Nathalie Hélal, oui. le meilleur carnet d'adresses de France. Qui sont les personnalités qui viennent du Tarn ?
Il y en a beaucoup, mais ne vous étonnez surtout pas si je vous parle de certains qui sont nés dans le Tarn-et-Garonne. C'est juste à côté, hein, c'est limitrophe. C'est pour ne pas faire de jaloux, j'ai horreur de faire des jaloux. Alors, on trouve notamment dans ces départements des personnalités qui font chanter la France, comme par exemple...
Les jolies colonies de vacances. Merci maman.
Évidemment.
Il est de là-bas, Pierre Perret.
Pierre Perret de Castelsarrasin, oui. Il est né en 34 là-bas. Et puis, attendez.
Non.
Mais non, mais c'est pas lui.
Clo-Clo ?
Non, lui c'était l'Égypte. Non. Je vous parle d'Étienne Rodagil. Alors lui, il est né à Montauban. Et puis c'est vraiment un auteur de chansons particulièrement prolifique. Donc justement pour Claude François, mais aussi pour Julien Clerc, pour Vanessa Paradis, enfin pour plein de chanteurs de talent.
Ça, et c'est puis, le Tarn-et-Garonne.
Oui. Et puis du côté du 7e art, vous avez le cinéaste, un grand cinéaste, André Téchiné, qui est né à Valence d'Agen. Alors les films, Les Roseaux Sauvages, L'Hôtel des Amériques, J'embrasse pas, Rendez-vous. Et puis vous avez aussi des personnages historique. Alors là, on est vraiment dans le Tarn. Eh bien, c'est un explorateur, justement. Je parle de Jean-François de Gallo, le comte de la Pérouse, qui est né tout près d'Albi au XVIIIe siècle.
Grand explorateur.
Oui, absolument.
Il est allé jusqu'en Australie au XVIIIe siècle.
Un très grand monsieur, ouais. Absolument. Et puis, je reviens à Montauban avec Olympe de Gouges, née en 1748. Ça, c'est une des pionnières du féminisme en France. Elle est vraiment importante. Sa parole est importante et résonne aujourd'hui. Elle a été malheureusement guillotinée en 1793. Encore Montauban avec le peintre Jean-Auguste Dominique Ingres. Vous savez, ces deux chefs-d'œuvre comme La Grande Baigneuse, La Grande Odalisque, des nus féminins somptueux. Et puis toujours chez les peintres célèbres, et là nous sommes dans le Tarn, avec Henri de Toulouse-Lautrec. Je vous parlerai d'ailleurs de ce génie parce que c'est un génie, ouais. Tout à l'heure, sans oublier l'illustre Jean Jaurès, lui aussi natif de la région, il est de Castres.
Bah, je suis fan des deux.
C'est pas le même registre.
C'est pas le même registre.
On fait le grand écart.
Merci Nathalie. Emmanuel Jarry,
oui.
Quand on vous dit Tarn, vous pensez quoi côté gastronomie?
Ah bah, je dis déjà, je vais me régaler, ça c'est sûr. Ouais. Je pense au confit de canard, je pense au foie gras, je pense au jambon des Monts de la Cône et aussi à la morue, on le sait moins. Mais,
la morue?
Oui, je vous raconterai tout ça tout à l'heure.
Bon, très bien.
Cassoulet.
On découvre le Tarn dans un tout petit instant en compagnie d'un guide exceptionnel, Jean-Louis Etienne, qui est avec nous sur Europe 1 dans quelques instants.
16h, 18h. Et si on partait? Philippe Googler sur Europe 1.
Et si on partait 2 heures de voyage tous les après-midi, sans aucune contrainte, sans frontières, juste pour le plaisir de rêver? À 17h tout à l'heure, je vous emmènerai donc en Tanzanie, le pays de la savane, de Zanzibar, du lac Tanganyika, du Kilimandjaro, c'est énorme. Et puis tout de suite, nous sommes dans le Tarn, qui est à la source du canal du Midi, si mes souvenirs sont bons.
Hein, je crois que c'est dans la montagne noire,
tout
il me semble.
À fait. Ouais, tout à fait. C'est le fief du rugby, c'est le pays d'Albi et de sa cité épiscopale. Et puis surtout, c'est le fief d'un homme que j'ai vraiment beaucoup de plaisir à accueillir aujourd'hui en studio, Jean-Louis Etienne, un des plus grands explorateurs français. C'est le premier homme à avoir atteint le pôle Nord en solitaire. C'est l'homme qui fut le premier aussi à traverser l'Arctique en ballon et un des rares Français qui, de son vivant, à l'entrée de son village, a une pancarte avec inscrit « Ici est né Jean-Louis Etienne ». C'est bien ça?
Oui, c'est bien ça. À l'entrée du village, il y a un panneau. Village natal de Jean-Louis Etienne. Ça date du Tour de France.
Ah oui ?
Vous savez, quand le Tour de France passe, il y avait un commentateur qui était dans l'hélico, je ne sais pas quoi, qui disait « Ici, nous traversons, ici, vous avez la cathédrale 2, et ici, nous traversons le village natal de Jean-Louis Etienne. » Alors du coup, la mère du village a mis...
Ben, c'est super, ça doit faire plaisir.
C'est là où je suis né.
Ouais.
C'est là où j'étais à l'école petit, c'est là où j'étais...
C'est lequel d'ailleurs, ce village ?
Vielmur. Vielmur, sur Agoute. La ville s'appelle... La rivière s'appelle l'Agoute. Et j'ai grandi là.
Mais alors, moi j'ai une question à vous poser, c'est quelqu'un qui, comme vous, a fait le tour du monde, est allé au pôle Nord et qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, vous revenez, comme Ulysse, posez vos valises là où vous avez grandi. Vous n'avez pas trouvé mieux que le Tarn.
C'est une bonne question. Tous les voyageurs cherchent un endroit où ils font poser le sac et se dire, c'est là. Vous voyez, une espèce d'apaisement, vous avez trouvé votre lieu, votre maison, quelque part, c'est là, vous vous sentez bien. Et donc je cherchais, j'allais trouver des coins dans le monde. Hein.
Ouais, lesquels par exemple?
En Polynésie par exemple, c'est absolument magnifique, en Himalaya. Et puis un jour, en temps de la traversée de l'Antarctique, je vais voir le maire du village, il dit « t'as pas un coin tranquille là, une maison là ?» Il m'a dit « si, on est en train de faire un lotissement là, tu verras, c'est vachement... » J'ai dit « non mais je ne vais pas me foutre dans un lotissement, je cherche un coin tranquille sauvage. » Et donc on a sillonné, puis on est arrivé sur une colline, il y avait une maison, au fond il y avait les Pyrénées, en bas la vallée de la Goutte, c'est dans les forêts, dans une forêt, il y avait une maison, mais je ne sais pas si elle est à vendre. Et puis donc je suis revenu tout seul, puis je dis « c'est là, c'est là ». Et en fait, c'est...
Et pourquoi c'était là?
Ben, j'avais besoin de revenir peut-être dans le Tarn. Ça fait longtemps, ça faisait 15 années que je faisais des expéditions. C'était très apaisant, le coin. Et puis, surtout, j'avais envie de construire ma cabane. C'est ça, j'avais un rêve de bâtisseur.
Ouais.
Et là, il y avait une maison déjà. Parce qu'aujourd'hui, pour construire une maison dans les forêts, c'est impossible. Il y a des postes, il y a des cosses, il y a tous ces trucs. Ouais. Voilà. Il y avait une maison. Et là, tout d'un coup, j'ai vu l'endroit perché, dominant. Il y avait une forêt de chênes. J'ai dit, c'est là que je vais la faire. Et donc, j'ai construit, enfin, la première avec un charpentier, la deuxième, c'est moi qui l'ai faite.
Vous-même?
Oui, moi, je suis un manuel, moi, au départ. Moi, vous savez, j'avais fait un CAP de tourneur-fraiseur.
Ah oui?
Oui, j'étais à l'école à Vielmur, donc, et puis après à l'école à Castres, et puis après, j'étais au collège technique, à Mazamet, toujours dans le Tarn, parce que je n'avais pas les notes pour entrer en sixième. En fait, je sais aujourd'hui que j'étais très dyslexique, dysorthographique, et donc je ne vais pas la faire. Et donc j'ai eu une formation professionnelle. Donc pendant 3 ans, on fait un CAP, on fait les tolimeurs, la fraiseuse, le tour. Enfin. Et là, j'ai eu de l'intérêt pour la scolarité. Et donc je le dis à toutes les personnes qui nous écoutent, qui ont un enfant qui est en difficulté, qui est C'est pas parce qu'il est couillon, c'est parce qu'il n'a pas trouvé son chemin dans la voie scolaire.
Absolument.
Et des fois, un retour sur, comme j'ai pu le faire, sur la formation professionnelle, c'est une reprise de confiance. Et après, donc, je me dis, vous allez passer le bac. Donc, j'ai passé un bac technique. Et qu'est-ce que je vais faire, un bac technique? Donc, j'ai fait médecine, je voulais faire médecine. Puis après, j'étais interne en chirurgie. Et là, en chirurgie, je retrouve le geste manuel, vous voyez. J'adorais l'orthopédie, on met des plis, des vis, des plaques, des broches, des clous. J'étais bon.
Il y a une logique.
Voilà. Mais il y avait une volonté d'expédition depuis trop petit. Moi, je suis né à la campagne et j'avais cette...
Mais alors justement, parce que vous êtes revenu dans le Tarn parce que vous vous y sentez bien, mais qu'est-ce qui vous a poussé à partir du Tarn et à aller très très loin? Est-ce qu'il
alors,
y a dans
ça,
le Tarn quelque
pas.
Chose qui vous a envoyé au bout du monde?
Non, c'est pas là que ça se passe, non. Je ne sais pas où.
Ça se passe où?
Je ne sais pas, mais c'est un désir de nature.
Ouais.
Et... J'étais assez solitaire et je faisais des engagements. Vous avez évoqué la montagne noire, et donc c'est le point culminant, le pic de Nord à 1200 mètres. Et mon père, avec une 4 chevaux, nous amenait de temps en temps en hiver. Et alors moi, je me faisais, en hiver, avec du givre, il y a encore de la neige, je me faisais des rêves d'expédition himalayenne. Donc j'ai beaucoup rêvé de ça. À 14 ans, j'ai fait une liste de matériel pour aller camper dans les Pyrénées en hiver. Une expédition, je voulais faire, j'avais des idoles, Walter Bonatti, des gens qui faisaient la face nord du Cervin. Donc je rêvais d'expédition, sans trop savoir ce que c'était, mais je rêvais d'engagement dans la nature, comme ça.
C'est beau parce que vous avez réalisé vos rêves aussi.
J'ai réalisé effectivement ces rêves. Vous savez, c'est la médecine qui m'a conduit à ça, j'ai fait la médecine. Donc. Et puis, à un moment donné, j'ai fait la course autour du monde avec Eric Tabarly. Parce que j'étais médecin, j'avais une compétence tellement de mère. J'ai fait des expéditions himalayennes, j'ai des comme ça. Et entre les expéditions, je revenais dans le Tarn, remplaçais le médecin du village ou des villages à côté pour gagner ma vie. Donc j'ai exercé la médecine là, en même temps, en remplacement. J'ai jamais eu mon cabinet. Et au début, donc, au village, donc, les gens me regardaient et me disaient « Bon, alors comment je te dis ?» Je te dis Jean-Louis ou docteur ?» Comment te... Vous voyez, c'est...
Jean-Louis-Étienne, vous restez avec nous. On va continuer à explorer le Tarn avec vous dans un tout petit instant sur Europe 1.
16h-18h. Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
2 heures de voyage tous les jours sur Europe 1, en Tanzanie tout à l'heure, après le flash de 17h. Mais là, tout de suite, dans le Tarn, avec Jean-Louis Étienne, le premier homme à avoir atteint le pôle Nord en solitaire, l'homme qui fut le premier à traverser l'Arctique. Mais je ne suis pas sûr que ce soit plus facile.
L'Atlantique.
Vous avez traversé l'Atlantique aussi, mais oui.
Oh oui.
Mais oui, bien sûr. Pardon. Mais oui.
C'était ma première grande navigation. J'ai fait ça avec le père Jaouen. C'était un jésuite où on a mené sur le Bel Espoir. On avait des jeunes en difficulté sociale ou des toxicomanes sortis de prison. Ouais. Et donc, j'étais le médecin sur ce bateau. On traversait l'Atlantique pour les éloigner des fournisseurs et leur donner une autre énergie de vie. Ouais. C'est ça l'idée.
Alors, vous êtes originaire du Tarn et il y a un autre explorateur célèbre dans le Tarn qui s'appelle Lapérouse,
qui
a exploré le Pacifique au XVIIIe siècle. Ça devait être quand même une sacrée aventure. C'est un peu un modèle pour vous? Il vous a inspiré?
Oui, ces navigateurs de cette époque-là sont, quand on navigue, quand on va dans des zones un peu difficiles, aujourd'hui on a des cartes marines, on a un GPS, on sait parfaitement où on est. Vous vous rendez compte avec ces bateaux qui n'étaient pas très manœuvrants en fait.
C'était fragile.
Et c'était uniquement à la force du vent. Ils s'avançaient sur un terrain inconnu. De temps en temps, on envoyait un mec avant avec une corde pour voir s'il y avait... Donc, il y avait un gars qui était à la mature pour voir s'il y avait des rochers. Vous vous rendez compte? Donc ils voyaient une île de temps en temps et ils essayaient de s'approcher. Des fois, c'était impossible. Moi, je suis fasciné par l'audace de ces gens. Quoi.
Le courage, la force aussi.
Oui, et l'audace. Et puis, ils étaient nombreux sur des bateaux. Et ils menaient des hommes dans des situations complexes. Quoi.
Et puis, il y avait des corsaires, des pirates en plus sur les mers à l'époque. Hein.
Ah oui, oui,
c'était
autre
chose.
Ah oui, ils affrontaient tout. Quoi, hein. Donc, ce qu'a fait Lapérouse, c'est remarquable. C'était un voyage très humaniste qu'avait fait Lapérouse. Il n'était pas parti pour des conquêtes territoriales.
Ouais. D'ailleurs, il aurait pu en faire. On s'est un petit peu dit après que les Anglais en ont fait.
C'est très intellectuel. Oui, et c'est Louis XVI qui lui a demandé de partir et explorer le monde. Ouais. Et d'ailleurs, il y a une histoire qui dit qu'avant de passer à l'échafaud, Louis XVI a demandé « Avez-vous des nouvelles de M. Lapérouse ?» Puisque c'est lui qui l'avait. Oui, c'est l'histoire est véridique.
Incroyable. Quand vous vous baladez dans le Tarn, vous avez des petits coins secrets, des endroits à vous que vous nous recommanderiez?
Moi, j'habite sur un coteau vraiment un peu au-dessus du village où je suis né, puis c'est à côté de Lautrec, donc à mi-chemin. Et moi, je suis dans mon... C'est mon port autonome, là, vous voyez. J'arrive, je débarque là, et c'est un apaisement total. Je suis dans la forêt, ces maisons sont en bois, sur pilotis, elles ne sont pas sur les arbres, parce que ça bouge les arbres, sur pilotis. Donc ça, c'est un coin où je suis sûr de mon coup, là. C'est-à-dire, quand j'arrive, c'est très apaisant. Et le département du Tarn est apaisant.
Il paraît que vous avez dit, ce qu'il y a d'extraordinaire dans le Tarn, c'est qu'il n'y s'y passe rien.
Je l'ai dit il y a quelques années, oui.
Est-ce que c'est très flatteur pour le Tarn ?
Non, mais vous savez, c'est vrai qu'effectivement, à une émission de radio, j'avais dit ça pour qualifier la tranquillité de ce département. Ça se vide au mois d'août, on va dire, vous voyez ce que je veux dire, alors que les autres départements se remplissent, alors qu'il y a une activité culturelle, il y a un concept. Et c'est le conseil général qui m'a appelé, ils ont dit, écoutez, monsieur Etienne, nous on fait des efforts, et puis vous êtes en train de dire qu'il ne s'y passe rien. Je voulais dire que c'était un havre de paix, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, je sais, quand je raconte cette histoire, il y a des gens qui relèvent en disant, aujourd'hui c'est une valeur sûre. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire, chercher la tranquillité. Ça ressemble à la Toscane, ce sont des coteaux, des champs, des bois, c'est très beau.
Ouais. Et c'est le pays du rugby, vous y jouez ?
J'ai joué au Castres Olympique, j'étais demi de mêlée au Castres Olympique il y a longtemps, j'ai adoré ce sport, ça a été un de mes sports favoris, j'avais la taille du mêlée, j'ai adoré, oui, le rugby.
Moi, j'aimerais vous poser une question, parce qu'à chaque fois, ça m'interroge, parce qu'on parlait tout à l'heure de la Pérouse et du courage de ces navigateurs. Quand vous êtes tout seul au pôle Nord, dans des conditions dantesques, pendant des semaines, il fait froid, que vous gérez la solitude, l'angoisse de pouvoir parler à personne. Comment vous faites ? Vous vous appuyez sur quoi ? Quel est votre ressort ?
J'avais une très forte envie d'aller au pôle Nord. Le pôle Nord, j'ai fait médecine, j'étais en chirurgie, puis je voulais faire des expéditions. La médecine m'a mis le pied à l'étrier de ces expéditions et j'en ai fait pendant 12 ans. Et j'allais avoir 40 ans, je me suis dit maintenant, il faut que je fasse la mienne. Parce que j'ai été recruté comme médecin, même si je suis alpiniste, je participais... sur Penduic, vous prenez la barre comme tout le monde. Mais à 40 ans, je me dis, mais je vais faire la mienne. Et le pôle Nord s'est imposé comme la synthèse. Le pôle Nord est au milieu d'un océan gelé. Donc aller vers le pôle Nord, c'est le froid de la très haute altitude, de la très haute montagne, la glace de la très haute montagne. Et en même temps, c'est une navigation maritime. On est sur un océan. Et j'ai compris que c'était pour moi dans le sens où c'est pas technique. Vous voyez, il faut tirer un traîneau. Terrain traîneau, on n'a pas besoin de faire des stages. Quoi. On vous met un traîneau à la taille, là, vous allez voir. Ça, c'est inné. Mais donc, c'était ce point immatériel. Et je l'avais en tête. J'avais le sentiment, je m'étais impliqué dans la préparation, que ma vie devait passer par le pôle Nord. Et donc, ça a été pour moi une construction très forte, parce que je l'ai fait en 1986. Il n'y avait pas de GPS, pas de téléphone, il n'y avait rien. Donc, c'était une immense solitude. Et j'ai connu moins 52 sous la tente, vous voyez, j'étais en hypothermie à un moment donné, donc je savais ce que c'était que l'hypothermie. Et donc...
Mais quand vous êtes sous votre tente en hypothermie, en train de souffrir, oui. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là ?
Il faut tenir jusqu'à 6 heures du matin, où je vais pouvoir de nouveau sortir, parce qu'il faisait nuit au début, c'est là que j'ai eu les très basses températures. Je pense que si on avait été au moins 2, on aurait abandonné, comme tous mes prédécesseurs.
Ah, pourquoi ?
Parce qu'à un moment donné, j'étais limite. Vous voyez, quand vous êtes en hypothermie, il faut faire des tables de multiplication. Pour savoir le niveau de conscience que vous avez, donc 4 fois 5, si vous n'avez pas 20, c'est grave. Enfin, il faut connaître l'étape de multiplication avant de partir. Mais donc, je pense qu'à 2, je suis sûr qu'on aurait dit, on est en train de déconner complètement. Quoi. Et tous mes prédécesseurs, qui étaient en équipe, avaient abandonné. Quoi.
Donc, on s'entraîne dans la chute quand on est 2 ?
Oui, certainement. On peut se fragiliser, on peut se potentialiser, mais en même temps, on a le courage, mais on peut se fragiliser, parce que là, on était en situation. Et j'ai cultivé une persévérance formidable. Ça a été très, très constructif pour moi, l'arrivée au pôle Nord. C'est un jour dans la vie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Je parlais au traîneau, parce que j'étais seul, je parlais au réchaud, qui m'avait accompagné, j'avais besoin de dire, on y est arrivé.
Vous avez parlé à votre réchaud ?
Oui, le réchaud, c'est le Saint-Sacrement, quoi. Hein. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut que ça marche, quoi. Hein. C'est lui qui vous fait fondre la glace pour avoir de l'eau pour faire chauffer les aliments lyophilisés.
Donc finalement, vous êtes très proche de la Pérouse, dans le courage et dans l'audace et dans le...
À ma façon, oui. Mais j'allais sur un terrain qui était connu, à part que la banquise est très dangereuse, quoi. La banquise, il y a des crêtes de compression. C'est un champ de mines, et c'est un océan gelé de tempêtes. Il y a des crêtes de compression, on escalade la glace. Et donc, je répète, c'est constructif, c'est engagement solitaire, mais ça peut la peine d'aller si loin, vous voyez. Quelqu'un qui se dit, je vais monter la montagne, je vais gravir une montagne qui n'est pas technique, et puis qui est un peu fatigué, oh, je verrai si... Non, non, tenir, hein, se tenir, aller jusqu'au bout du but, si vous voulez. C'est ça qui est constructif et qui m'a vraiment apporté ce voyage-là.
Merci beaucoup, Jean-Louis-Étienne. Dans un tout petit instant, on va continuer à explorer avec vous le monde et le Tarn, en parallèle, en même temps, grâce à Nathalie Hélal, qui a puisé dans les profondeurs de cette région... des tas d'informations extrêmement intéressantes. On va voir ça sur Europe 1. Et si on partait sur Europe 1, tous les jours, deux grands voyages. Après le flash de 17h, nous irons chez les hippos, les lions, les gèbres, les zèbres, les girafes. Si, il y a des lions, Jean-Bernard Cailloux.
Pas les oiseaux, j'allais dire.
Ah, non, on ne fera pas les oiseaux. On aura ce débat tout à l'heure. Et puis, nous irons également sur le lac Tanganyika. C'est une destination incroyable. Mais là, tout de suite, nous sommes dans le Tarn, à la découverte d'une région française dont on ne parle pas assez. Et Nathalie, vous nous avez dégoté un trésor qui serait caché, enfoui là-bas depuis des siècles.
Oui, en fait. Ouais, j'adore. C'est le fameux trésor des Cathares qui dort depuis environ 800 ans, quelque part dans la nature. Il est estimé à 100 000 livres de l'époque, probablement en or et en argent. En fait, ça fait quelques millions d'euros d'aujourd'hui, on peut dire ça comme ça. Ouais. Les Cathares. Il y est toujours. Et vous savez que nous sommes nombreux en France à chercher des trésors. Beaucoup de gens qui adorent ça, avec des détecteurs de métaux. Alors les Cathares, qui étaient-ils ? Eh bien, c'était des hommes et des femmes adeptes d'une doctrine religieuse selon laquelle le monde matériel est la création du démon et non pas de Dieu.
Ah bon ?
C'est-à-dire que pour les Cathares, c'est Satan qui oblige des anges à s'incarner en hommes pour peupler la terre.
Donc nous sommes des anges réduits en esclavage par le
plus
démon.
Plus ou moins, parce qu'ils n'étaient pas du tout attachés au matériel, les Cathares, même s'ils avaient un joli pactole quand même, planqué ensuite. On les appelait les purs, les parfaits ou encore les bons hommes. Et leurs rites étaient administrés par des prêtres et des évêques sur le modèle de la hiérarchie catholique.
Et l'Église en pensait quoi ?
Ah ben, ils n'aimaient pas du tout parce que les Cathares avaient une soif de pureté, une mystique particulière. Donc évidemment, ils ont épouvanté littéralement l'Église catholique qui va se déchaîner contre eux. Ils sont considérés comme hérétiques, ils sont traqués, massacrés par l'Inquisition. Et le dernier bastion à tomber, c'est le château de Montségur en 1244. Il est à 1060 mètres d'altitude, c'est perché sur un piton calcaire qu'on appelle le Pog. C'est même pas un château d'ailleurs, c'est une forteresse réputée imprenable. Et surtout, c'était un centre spirituel des Cathares. Il y avait une communauté de 500 personnes et en mai 1243, une armée de 10 000 hommes va faire le siège du château. Et pendant 10 mois, avec un immense courage, les défenseurs cathares repoussent tous les assauts. Malheureusement, peu avant Noël, une petite troupe va escalader le roc de la tour, y prendre position. Donc les assiégeants peuvent installer les catapultes. L'eau commence à manquer à Montségur. Donc les assaillants vont proposer aux Cathares d'avoir la vie sauve s'ils abjurent leur foi. Mais ils vont refuser parce qu'ils sont jusqu'au boutistes. Ils préfèrent mourir plutôt que abjurer leur foi. Donc ils vont se rendre le 16 mars 1244. Ils ouvrent les portes de la forteresse. Et puis là, il y a une cohorte de 215 hommes et femmes qui descend vers le bas de la montagne en se tenant par la main, en chantant des hymnes avec un immense courage. Et il y a un bûcher qui les attend. On dit qu'il a fallu 100 charges de hêtre, c'est-à-dire vraiment beaucoup, beaucoup de morceaux de bois pour constituer ce bûcher. Ils y montent de leur plein gré, on ne les pousse pas. Et leur corps réduit en cendres vont donner au lieu son nom sinistre, c'est-à-dire le Prat des Crémats, le champ des brûlés.
Ah, quelle histoire !
Oui.
Et alors le trésor ?
Montségur, ce n'était pas seulement une forteresse, c'était surtout un immense coffre-fort. Et on pense que cette forteresse abritait la fortune des Cathares, mis de côté depuis des décennies. Alors aujourd'hui encore, on ignore si le trésor est resté enfoui sous les ruines du château ou s'il a été transporté dans un autre lieu. En tout cas, on sait que la nuit précédant la date fatidique du bûcher, deux ou quatre parfait, deux ou quatre bons hommes, donc ces cathares, se seraient évadés de la forteresse assiégée. Ils seraient laissés glisser à l'aide de cordes le long des parois vertigineuses. Ils auraient atteint le Sabartès, qui est un terroir périnéen près de Tarascon-sur-Ariège, où se trouve un réseau de plus de 50 grottes. Et ensuite, on perd leurs traces. Mmh. Et bien évidemment, des chercheurs de trésors ont fouillé les lieux, mais en vain. Bon, alors pour d'autres passionnés de la légende cathare, le trésor n'aurait pas été constitué d'or, mais d'un objet bien plus précieux, à savoir la coupe de sang du Christ, le très précieux Graal.
Ah oui. Jean-Louis Etienne, vous savez où est le trésor, vous ? Vous avez une idée ?
Oui.
Ah.
Ça, ça s'appelle un scoop.
Alors on écoute.
Je reviens sur les châteaux cathares, ça vaut vraiment le détour,
c'est magnifique.
Ah oui, c'est un déplacement de vacances, parce qu'on peut aller... C'est des randonnées, ceux qui aiment randonner, c'est toujours sur des pics, il faut faire des ascensions, c'est très beau.
Oui.
Non, je sais pas où il est, sinon...
Ah, vous savez pas, mais je suis déçu.
Sinon, il serait allé en toute tranquillité.
Jean-Louis Etienne, vous avez de nouveaux projets absolument incroyables, toujours liés à l'Antarctique. Vous voulez faire une expédition en 2023 avec un navire vertical, vous pouvez m'expliquer ?
Oui. On va étudier l'océan qui est autour de l'Antarctique. Donc là, on a parlé du pôle Nord tout à l'heure, c'est l'Arctique. Là, on change d'hémisphère, c'est l'Antarctique, donc c'est le pôle Sud. C'est un continent de glace qui est grand comme 28 fois la France. Vous voyez, c'est géant et autour, il y a un océan qui tourne, qui est poussé par les vents, les fameux 50e hurlants. C'est une zone qui est très peu étudiée, il y a très peu de missions. Et donc toutes les publications se terminent, on a besoin de mesures in situ de longue durée. Donc la question c'était quel type de vaisseau permet de séjourner sur cet océan de tempête. Et donc le navire vertical c'est en fait trois tubes, un treillis, qui font 100 mètres de haut.
100 mètres ?
Qui pèsent 1000 tonnes, oui c'est un gros truc. Hein, c'est... Ah, oui, oui. Et donc il y a 80 mètres sous l'eau, donc on est pris dans des eaux stables sous l'eau, voyez, avec un laisse de 150 tonnes de fond, et on habitera à une quinzaine de mètres au-dessus de l'eau. Pourquoi on y va ? C'est le principal puits de carbone océanique de la planète.
C'est-à-dire ?
Le CO2 que l'on émet annexé, responsable du réchauffement climatique, se dissout dans les eaux froides. Mmh. Et donc, cette ça fait 22 000 km de circonférence. C'est un océan absolument géant. Et donc, cette surface d'eau froide fait que c'est le principal puits de carbone océanique dont on ne connaît pas la performance. Ça, c'est une des mesures qu'on va faire.
Donc, vous voulez vous installer là-bas, dans ce bateau fixe, en fait ?
Oui, mais ça va durer... Pour deux tours, ça va durer trois ans. Mais il y a des relèves d'équipage. Hein. Ouais. Et la deuxième chose qui est propre à ce navire vertical, c'est qu'au fond, il y a le silence. On n'a pas de moteur, nous. C'est 6 éoliennes qui nous donnent le courant, donc on se déplace silencieusement. On va mettre des hydrophones, des micros sous l'eau, et on va faire un inventaire de la faune par acoustique. On va dire, tiens, une baleine bleue, tiens, un orque, tiens, un éléphant de mer. Vous voyez, par acoustique, on va faire un inventaire de la faune.
Bon, écoutez, j'espère que vous nous tiendrez au courant.
Polarpod, ça s'appelle.
Ouais, et c'est 2023. Hein, c'est
départ
ça.
Fin 2023.
Merci beaucoup, Jean-Louis Etienne, d'être venu nous raconter tout cela, nous raconter votre Tarn et vos expéditions. À une prochaine fois, j'espère.
À une prochaine, oui.
À une prochaine. Dans un petit instant sur Europe 1, nous continuons à parcourir la région, le monde, la France, les pôles. Enfin, on va partout dans cette émission, c'est extraordinaire. Nous serons avec Emmanuel Jarry, côté cuisine. À tout de suite. (Rire) 16h40 sur Europe 1, on commence un petit peu à avoir faim,
ah oui,
ça approche.
Ça arrive, tout doucement.
Emmanuel Jarry, le Tarn, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Eh ben, je vous en ai parlé un petit peu au début, les salaisons, déjà les jambons, les saucissons. Hein, moi, j'aime beaucoup les charcuteries. On les fabrique depuis longtemps, depuis l'époque romaine, dans les monts de Lacaune, au sud-est du département. Et on fabriquait dans cette zone en particulier parce que le climat était favorable. Il y avait les vents océaniques humides qui croisaient les vents méditerranéens secs. Donc, c'était bien pour l'affinage. Mais par définition, pour faire des salaisons, il faut du sel. Donc, depuis très longtemps, il y a eu des échanges entre ce qu'on appelait le haut pays, donc les monts de Lacaune, et le bas pays, en gros, c'est le département de l'Hérault. Donc les paysans descendaient des montagnes avec leur charcuterie et leur fromage et ils échangeaient ces charcuteries et ce fromage contre du sel et du vin. Puis après, ils remontaient chez eux pour fabriquer leurs produits. Donc on parle même de route du sel tellement ces échanges étaient importants. Et en fait, ils se sont intensifiés au 19e siècle avec le développement de la voie ferrée et la monoculture de la vigne dans tout le Languedoc-Roussillon. Donc là, ces vignobles ont eu besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Et donc ces paysans ont pris l'habitude après après les travaux d'été, de quitter le Tarn pour aller travailler dans les villes du Languedoc. Et en fait, ces paysans, on les appelait les gavaches. Et ça, c'est un terme qui est plutôt dépréciatif.
Oui, ça n'a pas l'air flatteur.
Non, c'est vrai, ça se sent.
Même sans comprendre le nom, ah oui, ce que vrai. Ça veut dire, on traite de gavache.
Littéralement, en occitan, les gavaches, c'est les personnes qui parlent une langue qu'on ne connaît pas. Donc, c'était la langue inconnue des gens qui habitaient l'Hérault. Et j'ai trouvé ça intéressant quand j'ai eu cette information, parce que d'une manière générale, souvent le racisme vient de cette incompréhension de la langue. Et en fait, le mot barbare chez les Grecs, ça signifiait tous ceux qui ne parlaient pas le grec, justement.
Oui, c'est ça,
voilà, c'est une
ça.
Petite parenthèse, mais voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Et donc, à la Caune, l'importance des salaisons est telle qu'on a créé une fête du cochon depuis le Moyen-Âge, et la Saint-Cochon en hiver.
La Saint-Cochon ?
La Saint-Cochon. et en fait, on fait le repas des os comme l'os, hein, OS.
Le repas des os.
Le repas des os, encore aujourd'hui.
On mange des os ?
Non, en fait, on racle les os. Vous voyez, on rogne les os pour rien perdre. Une fois qu'on a fini de cuisiner le cochon, qu'on a fait les saucissons, le boudin, les jambons, tout ça, il reste les morceaux de gras, les gratons. Donc, on les fait frire et puis on racle les os. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi en Quercy. Moi, je vais très souvent dans le Quercy en vacances. Et ben, l'hiver, quand on fait les foie gras de canard, les confits de canard, après, on mange les os. Et on mange les fritons, c'est ce qui est resté dans le fond du chaudron, les morceaux de gras, quoi.
C'est bon ?
Ah bah, c'est ce que je préfère, moi.
Ah oui ?
Ouais. Alors, évidemment, il faut aimer le gras, mais je l'ai déjà dit, le gras, c'est très bon pour le cerveau. Et donc, voilà. Mais c'est, voilà. Donc, le cochon est tellement important là, dans la région que cette fête existe toujours.
Ouais. Et qu'est-ce qu'on mange d'autre dans le Tarn ?
Alors, on mange le cassoulet de morue. Ça, c'est pas très connu.
Un cassoulet de morue ?
Tout à fait.
Et en fait, il n'y a pas de poisson, non ? Il n'y a pas de mer ?
Si. Ah non, il n'y a pas de mer. Mais il y a du poisson. Et en fait, la morue arrivait par les gabarres. Hein. Qui arrivait de Bordeaux par la Garonne, puis par le Tarn, les cales chargées de poissons, elles vendaient les poissons, elles repartaient avec les charcuteries, avec le vin jusqu'à Bordeaux. Et en fait, on consommait beaucoup ce poisson pendant les périodes de carême. Parce que qui dit carême ne dit pas forcément diète, hein, on peut faire bombance, mais bon. Et donc aujourd'hui, il y a encore un restaurant à Albi, le Lautrec, qui cuisine ce plat, qui est devenu rare, hein, parce que vraiment les habitants encore, d'Albi ou du Tarn ne le connaissent pas forcément. Vous connaissez Jean-Bernard,
ouais, j'ai
le
Lautrec, Lautrec. Restaurant traditionnel.
Oui, tout à fait. Bah, c'est ceux que j'aime, moi, en fait. Et ce chef, il cuisine ce cassoulet de morue avec du safran. Donc, il y a un produit qui était très réputé depuis les croisades dans la région qui avait tendance, enfin, qui disparaissait un petit peu il y a une vingtaine d'années. Puis la culture revient. Et il le cuisine aussi avec l'ail rose de Lautrec. Alors là, grand produit emblématique.
L'ail rose, oui, c'est emblématique du Tarn.
Oui, tout à fait. Et en fait,
qu'est-ce qu'il a de plus que l'autre ?
Bah, il est très doux. Il a cette jolie couleur rose, mais surtout il est doux, il a des petites saveurs sucrées. C'est pour ça que les chefs l'aiment beaucoup. Alors on raconte qu'il serait arrivé dans la région avec un voyageur qui s'est arrêté dans une auberge et qui, n'ayant pas d'argent pour payer son repas, avait donné des gousses d'ail, et l'aubergiste furieux les avait jetées à terre. Oui. Et l'ail a poussé.
Alors ça mais pourquoi il est devenu rose ?
Ah non, alors ça, c'est parce que les caractéristiques du sol et sûrement de la variété.
Terroir, ouais.
Mais ça m'a amusé, cette histoire, parce que ça m'a rappelé, vous savez, on jette les gousses et puis finalement, elles poussent. Jacques et le haricot magique, c'est les contes pour enfants, quoi. Vous voyez, Et en fait, dans ce restaurant aussi, on propose un cassoulet de canard. Alors, dans tout le sud-ouest, je l'ai déjà évoqué avec le Quercy, on mange le canard et tous les produits dérivés, le foie gras, la saucisse de canard, c'est ce qu'on met dans ce cassoulet, le confit. Mais dans le Tarn, le canard n'est pas considéré comme une viande. Et si vous dites, moi, je ne mange pas de viande, on peut facilement vous demander, un peu incrédule, mais vous mangez même pas de canard.
Hein. Ah oui, c'est marrant ça. Mais alors le cassoulet, c'est d'où exactement dans le sud-ouest ?
Ah non, c'est plus Carcassonne. Ah oui. Alors il y a plusieurs, on va en parler d'ailleurs la semaine prochaine.
Écoles,
il y a plusieurs écoles, il y a
Castelnaudary,
Carcassonne et Toulouse. Ouais.
D'accord.
Et chacun fait la vraie.
C'est la Sainte Trinité du cassoulet.
Tout à fait. Mais d'ailleurs Jean-Louis Etienne en a parlé, enfin l'a évoqué tout à l'heure. C'est vrai qu'après on est quand même dans le grand sud-ouest, donc on retrouve un petit peu les mêmes produits. Quoi.
Merci beaucoup, Emmanuel. Dans un tout petit instant, nous allons découvrir avec Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet comment profiter du Tarn, comment savourer cette région trop peu connue, comment aller à Albi. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Philippe Googler.
Tous les jours sur Europe 1, des voyages. On aime bien partir comme ça, tout oublier, se laisser aller. À partir de 17h, dans pas très longtemps, nous allons faire un voyage exceptionnel, aller dans l'Afrique qui ressemble à l'Afrique des rêves. Vous savez, cette Afrique de la vie sauvage avec des réserves gigantesques. Il y a notamment une réserve naturelle qui s'appelle la réserve du Selous, qui est grande comme la Suisse. Je ne sais pas si vous imaginez. Et au milieu de tout ça, des animaux fantastiques. C'est un pays merveilleux, c'est la Tanzanie. Mais là, tout de suite, nous sommes dans le Tarn, toujours à la découverte de cette région qu'on sous-estime vraiment et dont la capitale, Jean-Bernard Carrier, est vraiment exceptionnelle. C'est la ville rouge, Albi.
Albi, la fascinante. Albi, la majestueuse. Albi, la séductrice. Albi, l'envoûtante.
Oui, mais dis donc.
Oh là, ouais, c'est chaud.
Voilà l'effet qu'elle m'a fait. Je l'ai arpentée dans tous les sens, cette ville. Ouais. Elle est vraiment à l'image du département. Elle gagne à être connue. Elle est restée dans l'ombre de Toulouse. C'est un petit peu ça le problème. Vous avez dit, elle est sous-estimée. Elle est tellement plus intimiste que Toulouse. Alors, je ne vais pas me mettre à dos tous les Toulousains, mais c'est vrai que Albi a ce cachet très fort qui se dégage. Alors, on n'a pas le temps de faire un grand tour de ville. On va aller directement à l'essentiel. L'essentiel, c'est bien sûr la cathédrale Sainte-Cécile, la plus grande cathédrale de briques au monde, 113 mètres de long, qui surplombe le Tarn. De l'extérieur, on dirait un vrai château fort. Il y a un aspect, il faut dire, quand même un peu militaire, assez austère. On dirait vraiment une forteresse. Mmh. C'est pas vraiment le style des cathédrales que l'on connaît au nord de la Loire. Hein. C'est pas Chartres avec tous les ornements à l'extérieur. En revanche, quand on entre à l'intérieur de cette cathédrale, c'est un changement complet d'atmosphère. Des peintures splendides dans la voûte qui est colorée dans les tons bleus et dorés. Des fresques immenses, dont une représentation du jugement dernier, avec le ciel, la terre et l'enfer et les sept péchés capitaux. J'avais l'impression d'être en face d'une fabuleuse bande dessinée, une œuvre de science-fiction. Sept péchés capitaux, Nathalie ? Lequel serait le vôtre, d'ailleurs ?
La nourriture.
Je pensais plutôt la luxure,
non,
mais bon.
Ça rime, hein. Si vous voulez, oui. Ça rime.
En revanche, pour Emmanuel, ce serait plutôt la gourmandise, non ?
Oui, c'est
voilà.
Vrai.
Bon. Je continue mon petit tour de l'intérieur.
Moi, j'ai droit à rien.
Vous êtes parfait, Philippe. Vous n'avez pas de péché.
Vous n'êtes pas un pécheur.
Vous ne seriez pas un faillot, plutôt.
C'est un péché aussi, d'ailleurs. Je continue mon petit tour de cet intérieur de cathédrale. Elle se compose de deux parties, la nef. Et surtout, elle est séparée du chœur par un petit mur en pierre, en calcaire. Et ce chœur, là où se réunissaient les chanoines, il est tellement beau, tellement impressionnant, avec ses hautes stalles de bois. Les stalles sont des grandes chaises en bois. Ça respire l'ornementation. On a l'impression d'être dans un film d'Umberto Eco, Le Nom de la Rose.
Ah,
on a l'impression
oui,
qu'ils vont
vrai,
tous arriver ici et tenir leur conciliabule, leur tractation autour de la vie de la paroisse. Ça, c'est fascinant. Moi, j'avais vraiment l'impression d'être dans cet univers très profond. Et ce n'est pas fini. Autour du chœur, il y a 200 statues. 200 statues de hauteur d'homme. Elles sont tellement détaillées dans les vêtements, les traits des visages, les plis de la peau. On dirait qu'elles vont s'animer comme des gros jouets. C'en était presque oppressant.
Ah, vous la décrivez bien, parce que moi je l'ai visité,
tableau.
C'est vrai que c'est très
ça.
Impressionnant, et là je revis
non,
la cathédrale.
Absolument.
Mais il y a un côté fabuleux et oppressant, c'est ouais, ça qui, que je trouve bizarre dans cette cathédrale.
Et grandiose,
voilà, bien sûr, grandiose, ouais.
Et alors, on est dedans, on n'a plus envie d'en sortir. juste à côté de la cathédrale, il y a un petit musée que vous avez aimé.
Bah oui, Philippe, il y a un musée qui est magnifique. C'est le fameux musée Toulouse-Lautrec, qui est dans le palais de la Berbie. C'est la plus importante collection d'œuvres au monde, ouais, du fameux Toulouse-Lautrec. Nathalie, vous en avez parlé. Je crois que vous avez des choses à dire un petit peu sur Toulouse-Lautrec.
Ah bah oui, je vais retourner du côté de ma chère Luxure, hein, parce que Toulouse-Lautrec avait une certaine réputation avec les femmes. Il était très porté sur le sexe. Il avait beaucoup de maîtresses venues de son univers, c'est-à-dire le monde du spectacle et des arts, et surtout un nombre incalculable de filles débordelles parce qu'elles étaient ses muses pour ses toiles. Hein, il les aime parce qu'elles rient, elles bougent, elles sont vivantes et elles l'aimaient aussi. D'ailleurs, elle lui avait trouvé un gentil petit diminutif. Vous savez comment elle l'appelait, les filles débordelles ? Notre Toulouse-Lautrec ?
Non. Le courju, non ?
Non, on n'est pas très loin, vous allez voir. Elle l'appelait la cafetière, parce qu'il avait un sexe disproportionné par rapport à sa petite taille. Je rappelle qu'il était atteint d'une maladie rare, issue de la consanguinité de ses parents, donc il était presque nain, malheureusement.
Oh. Ouais. Bon, dis donc.
Donc, j'ai voilà. Pas cassé l'ambiance, non ?
Non, on va retourner dans la cathédrale, je pense. Je pense qu'on va retourner dans la cathédrale. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe? On retourne dans la cathédrale ou on va dans une autre région? Vous êtes assommé.
D'autres aspects peut-être de cette région magnifique.
Alors, dans le nord du département, il y a une région que j'adore. Ça s'appelle le Ségala. Là encore, c'est pas très connu. Ça n'a rien à voir avec le publicitaire, évidemment. Vous en doutez bien. C'est le Ségala de Tarnais. C'est très champêtre. Des collines, des rondeurs, tout ce que vous aimez, Philippe. Ouais. Et soudain, au milieu de ce paysage rural, émerge la ville de Carmo. Changement complet d'ambiance à l'époque. On est au siècle dernier, au temps des mines de charbon, avec Jaurès qui harangue les foules. C'est à Carmo, tout ça. L'histoire de France est jouée dans cette ville d'histoire ouvrière. C'est la fin de l'extraction charbonnière, malheureusement, en 1997. On perçoit encore toute la nostalgie de cette époque quand on chemine dans les rues de Carmo. J'ai adoré cette ambiance-là. Mmh. Alors, évidemment, la ville de Carmo essaye un petit peu de valoriser ce patrimoine-là avec un site qui s'appelle Cap Découverte, à la sortie de la ville. C'est là qu'était la plus grande mine de charbon à ciel ouvert d'Europe. Un cratère, imaginez-vous, d'un kilomètre de diamètre. On a l'impression qu'il y a une météorite qui a creusé ce trou. Et aujourd'hui, on y a aménagé des espaces de jeux, des tyroliennes, des parcours VTT, des jeux aquatiques et même un site pour se baigner. Il y a même une plage, figurez-vous.
Super. Et pour les bons vivants, quand on aime bien la bonne chair?
Alors, sans hésitation, il faut aller du côté de Gaillac, une magnifique région viticole. Hein, Emmanuel, ça doit vous parler. Ça. Il y a plein de petits coteaux recouverts de vignes, une ambiance très goulayante, comme je les aime bien. Et surtout, de très, très belles maisons d'hôtes. La ville de Gaillac, elle-même, au bord du Tarn, a beaucoup de charme. Il y a beaucoup d'hôtels particuliers, des portes sculptées. Vous voulez peut-être dire quelque chose sur le vin, justement, le fameux vin de Gaillac.
Moi, j'aime beaucoup ce vin. Il y a toutes les couleurs, blanc, rosé, rouge. Et il y a aussi le vin perlé.
Oui, ils appellent ça un vin effervescent, semble-t-il.
Si mes souvenirs sont bons. Juste une petite attaque comme ça. Voilà, c'est ça. Et on le boit très frais.
Vous faites bien, Philippe.
Non, mais c'est ça, sur la langue au début. Et puis, en fait, on le boit très frais en ce moment. Comme il fait chaud, c'est super. Un beau Gaillac perlé, l'apéritif, c'est super.
Je crois qu'il y a même quelques vins doux aussi.
Ah, bien sûr. Ah oui, les Gaillac doux, très très bons.
Donc, c'est une région du bon vivant. C'est une région du bon vivant.
Un fromage persillé.
Jean-Bernard, si on a envie de petits villages perdus, adorables, mignons, il y a ça aussi.
Il y en a un qu'il ne faut pas manquer, évidemment. C'est Cordes-sur-Ciel, l'un des plus beaux villages de France. C'est la poupée Barbie du tourisme dans le Tarn. C'est une cité médiévale sortie tout droit d'un conte de fées, à l'abri des remparts, qui est vraiment bâti sur un piton rocheux. Elle s'enroule autour d'un piton rocheux, à l'intérieur des ruelles pavées, plein d'hôtels particuliers. Évidemment, il y a beaucoup d'artistes qui sont installés là, donc il y a plein de galeries d'art, des ateliers d'artisans. Mmh. C'est un petit Saint-Paul-de-Vence, si vous voyez ce que je veux dire, version tarnaise, à ne pas manquer. Ouais. Voilà.
Et tout ça, c'est dans le Tarn.
Et tout ça, c'est dans le Tarn.
On sous-estime le Tarn, il faut le dire.
Je suis content que dans cette émission, nous fassions la promotion et la valorisation de tous les espaces sous-estimés en France, dont le Tarn.
Et alors, je tiens à préciser quand même que nous ne parlons pas des gorges du Tarn, mais c'est un débat difficile entre nous, mais nous avons tranché. Nous ne parlons pas des gorges du Tarn, la partie la plus populaire.
Voilà, parce que c'est la plus touristique. Ouais.
C'est pas dans le département du Tarn.
Non. C'est vers la Lozère, en fait, l'Aveyron et la Lozère.
D'accord.
Voilà. Mais c'est pas dans le Tarn. Voilà.
C'est pas dans le Tarn. Surtout pas. C'est magnifique et ce sera l'objet d'une autre émission parce que les gorges du Tarn, c'est tout simplement une féerie, un spectacle et c'est un endroit que j'adore. Vraiment. Merci beaucoup Jean-Bernard Carrier. Dans un tout petit instant, après le flash de 17h sur Europe 1, un autre voyage. Alors nous allons quitter la France. Partir très très loin pour une belle destination, la Tanzanie. C'est l'Afrique comme dans les rêves, avec des réserves animalières gigantesques. C'est aussi le pays de la mer, avec les boutres, vous savez, ces petits bateaux avec une grande voile qui flottent sur les eaux turquoises au large de Zanzibar. Tous ces noms-là, déjà, ça fait rêver. On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1.
Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Soyez les bienvenus sur Europe 1, belle fin d'après-midi, il est 17h. Place à l'info avec vous Yasmina Katou.
On vient de l'apprendre, 6 touristes français et 2 Nigériens ont été tués par des hommes armés au Niger. Les hommes sont arrivés à moto dans la zone de Kouré, zone qui abrite les derniers troupeaux de girafes d'Afrique de l'Ouest. Agir vite, avec efficacité, Emmanuel Macron a ouvert la visioconférence internationale de soutien au Liban. Le président a appelé les autorités libanaises à répondre aux aspirations du peuple. Nous devons tout faire pour que ni la violence ni le chaos ne l'emportent, dit le chef de l'État. Cinq jours après la terrible explosion qui a fait 158 morts, les Libanais ne décollèrent pas. Après les manifestations d'hier, de nouveaux appels à descendre dans la rue circulent sur les réseaux sociaux. Face à la colère du peuple, le ministre de l'Information a démissionné. C'est la toute première démission d'un membre du gouvernement. Cinq nouveaux départements placés en vigilance orange canicule, tous sont situés en Auvergne-Rhône-Alpes. Au total, 54 départements sont en alerte orange, 15 restent en vigilance rouge. Et Paris vit sa semaine la plus chaude depuis 1873. Les spécialistes prévoient un maximum de 39 degrés dans la capitale. Pour un peu de fraîcheur, il faudra attendre jeudi à Paris. Et difficile de supporter cette chaleur sous un masque. Comme dans plusieurs communes françaises, Paris et sa petite couronne imposent le port du masque à l'extérieur et ce dès demain à 8h. Mesure prise face à l'augmentation du nombre de malades en Île-de-France. Le taux de test positif est de 2,4% dans la région contre 1,6% pour la moyenne française. Rave party en Lozère, la préfecture appelle les participants à respecter les gestes barrières. Selon un communiqué, entre 3000 et 4500 rêveurs occupent toujours un terrain en plein parc national des Cévennes. Les élus locaux parlent de plus de 10 000 personnes arrivées cette nuit. Les gendarmes arrivés ce matin ont, eux, évacué une partie des fêtards. La police bloque maintenant l'accès au site. Je veux une élection honnête en Biélorussie. Svetlana Tikhanovskaya, la candidate opposante au régime, a voté dans un bureau de Minsk. Elle accuse son rival, le président sortant Alexandre Loukachenko, de fraude éhontée. L'homme dirige le pays d'une main de fer depuis maintenant 26 ans. La candidate a peu de chances de remporter ce scrutin contrôlé de près par le pouvoir. Des négociations historiques entre le gouvernement afghan et les talibans doivent débuter. Kaboul a accepté de libérer 400 prisonniers talibans coupables de crimes graves, condition sine qua non pour entamer ces pourparlers de paix. Et Max Verstappen remporte le Grand Prix du 70e anniversaire de Formule 1. Avec Red Bull, Verstappen a devancé Lewis Hamilton et sa Mercedes. Première fois depuis le début de la saison que les Mercedes sont battues. Mais le champion, Lewis Hamilton, conserve la tête du championnat.
Merci Yasmina. L'info sur Europe 1 de retour à 18h dans votre grand journal du soir. Ça sera avec Marion Calais. Merci d'avoir choisi Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nos escapades continuent tout de suite en toute sérénité avec Shiva, ménage et repassage à domicile.
Et si on partait, deuxième heure, c'est l'été, il fait chaud, très chaud, c'est le moment parfait pour lâcher prise. Tous les jours, je vous emmène aux quatre coins de la planète et aujourd'hui une destination exceptionnelle en Afrique. Afrique, vous voyez, l'Est, Sud, Sud-Est. C'est le pays du Kilimandjaro, des réserves animalières immenses, de Zanzibar, du lac Tanganyika. On part ensemble tout de suite, juste pour le plaisir de rêver, en Tanzanie.
16h, 18h, et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Je vous emmène sur le lac Tanganyika, un lac mythique, immense, aussi grand que la Belgique. C'est un des lacs les plus profonds du monde, qui descend jusqu'à 1500 mètres de fond. 1,5 km de profondeur, je ne sais pas si vous imaginez. Et j'ai vécu lors d'un des tournages des Trains pas comme les autres, une séance de pêche pas banale, vous allez voir. Bizarrement, le rendez-vous pour partir à la pêche se fait à 19h. Au coucher du soleil. Me voilà donc dans une grosse barque avec 6 pêcheurs. Plutôt sympa, tranquille, qui parle pas beaucoup, mais bon, on part. Et à la rame. Donc on rame tous, longtemps, une heure, deux heures. Il y a juste le bruit des rames et la nuit tout autour. Les pêcheurs se guident avec les étoiles et tout à coup, ils s'arrêtent. Je ne sais pas trop où on est. On est quelque part au milieu de ce lac immense. L'eau est calme, il fait noir. Et je vais découvrir leur technique de pêche assez étonnante. Ils allument tout à coup des grosses lampes à pétrole. Ils les placent au bout d'une perche qu'ils tendent au-dessus de l'eau. Et le but, c'est d'attirer les poissons avec la lumière. Et l'ambiance est extraordinaire parce que, petit à petit, je découvre qu'autour de nous, il y a des centaines de barques. J'avais pas vu, mais dans la nuit, des centaines de barques se sont installées avec des pêcheurs qui, eux aussi, allument leurs lampes. Donc, tout autour de moi, la nuit s'illumine de milliers de petites taches jaunes qui flottent légèrement au-dessus de l'eau, dans un silence presque total, un silence juste perturbé par la combustion des lampes à pétrole. Parce qu'il ne faut pas faire du bruit, il ne faut pas parler, il ne faut pas effrayer le poisson. Et l'ambiance, le spectacle est absolument unique. Donc, sur la barque avec les pêcheurs, on patiente. On patiente longuement, très longuement. Régulièrement, les pêcheurs scrutent les eaux pour essayer de voir s'il n'y a pas du poisson qui remonte des profondeurs. Il vient de loin. Et s'il n'y a pas du poisson, donc il vient se prendre dans les filets. Un pêcheur m'explique à voix basse que cette technique de pêche, ça s'appelle la pêche au lamparo. Il me dit que c'est une technique très ancienne, ça vient de nos arrière-arrière-arrière-grands-parents. À l'époque, ils utilisaient des fagots de roseaux qui faisaient brûler au-dessus de l'eau pour attirer les poissons. Bon, là, ça fait quand même 3 heures qu'on attend. Il commence à faire frais. Je me suis dit que j'aurais dû prendre une petite laine. Et puis, il y a même une petite pluie fine, froide, qui commence à tomber. Et je vous assure que coincé sur une barque dans l'humidité pendant 3 heures en pleine nuit, même si le spectacle est magnifique, je me dis que la vie des pêcheurs partout dans le monde, c'est jamais très simple. Et on attend encore, et cela va durer 6 heures. Et tout à coup, un cri. Ça y est, il y a du poisson là. Tout le monde s'agite un peu, tout le monde se met à remonter péniblement le filet. Il est lourd, il est très lourd. Est-ce que c'est bon signe ? Bah, eh ben non, parce qu'il est lourd à cause de la résistance de l'eau. Et je vois même autour de moi les pêcheurs qui font un peu grise mine. Il y a juste quelques petits poissons, un menu fretin, même pas de quoi vendre. Ils se le partageront entre eux. Et ils m'expliquent, les pêcheurs, que le lamparo, c'est pas du tout une garantie de bon résultat, mais que c'est l'espoir d'une bonne prise qui les fait partir et repartir encore. Et demain, ils en reviendront avec la même patience et avec le même courage.
Europe 1, 16h-18h. Et si on partait ? Philippe Googler.
Nous sommes en Tanzanie, sur Europe 1, jusqu'à 18h. A tout de suite.
Europe 1, 16h-18h. Et si on partait ? Philippe Googler.
Nous sommes en Tanzanie sur Europe 1 jusqu'à 18h dans Et si on partait avec mes amis grands voyageurs Nathalie Elal.
Présente.
Avec Emmanuel Jarry.
Ah oui, bien sûr, pour la Tanzanie.
Et avec Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet. La Tanzanie, donc sud-est un peu en haut, je dirais comme
ouais,
ça, de l'Afrique.
Moi je dirais Afrique de l'Est.
Ouais.
Ouais. En dessous du Kenya et au-dessus du Mozambique.
D'accord.
Voilà. Face à l'océan Indien. Ça, c'est important de le dire. Et que justement, face à l'océan Indien veut dire aussi que la Tanzanie dispose d'un archipel qui s'appelle l'archipel de Zanzibar. Donc il y a des îles en Tanzanie. C'est pas simplement qu'un gros pays qui fait à peu près 1500 km du nord au sud. Donc il y a des îles et il y a aussi, vous l'avez dit, des lacs. Il n'y a pas que le Tanganyika, il y a le lac Malawi, il y a le lac Victoria. Donc c'est un pays qui est extrêmement varié en termes d'écosystèmes et de paysages, dû aussi à toute cette faune absolument prolifique. Et puis on a oublié, il y a le grand géant de la géographie africaine, le Kilimandjaro, à presque 5800 mètres d'altitude.
Comment aurait-on pu oublier le Kilimandjaro ? Nous sommes en ligne avec Jean-François Didet, qui est réalisateur de documentaires. Pierre-François, pardon, j'étais sûr que j'allais la faire, mais je ne sais pas pourquoi. Pierre-François Didet, qui est réalisateur de documentaires et qui parcourt la Tanzanie depuis 25 ans. Il a grandi au Gabon, au Cameroun, il connaît très bien l'Afrique. Bonjour Pierre-François.
Bonjour Philippe.
Et la Tanzanie, je suis sûr que, j'espère que vous êtes de mon avis, mais je trouve que c'est d'abord un grand spectacle. C'est des paysages, c'est des animaux et c'est une émotion très très forte.
Ah bah c'est sûr que quand on veut découvrir l'Afrique des premiers jours, l'Afrique du début de l'humanité, du premier jour de l'humanité, la Tanzanie, c'est un régal. Évidemment, il y a le Serengeti, il y a les parcs au pied du Kilimandjaro, mais il y a aussi des réserves comme la réserve de Selous qui sont des réserves qui font plusieurs dizaines de milliers de kilomètres carrés, 55 000 pour Selous.
C'est plus grand que la Suisse.
Oui, c'est des réserves où on arrive en avion, on se pose, on fait le tour de la piste pour voir si des girafes ou des éléphants ne se sont pas installés là pour profiter du soleil.
Et s'il y a une girafe au milieu de la piste, qu'est-ce qu'on fait ?
On fait un tour un peu plus bas et puis généralement elles s'en vont et là le pilote se dit bon bah c'est bon on peut se poser.
Ouais. Et c'est vraiment magnifique et moi ce que j'aime beaucoup dans ces endroits là c'est les sons.
Oui les sons, alors il y a les sons de la journée, donc là vous voyez moi je suis dans le sud de la France, donc évidemment les sud de la France ça veut dire les cigales. Ouais. Eh bien, en Afrique, c'est des millions, des milliards d'insectes qui chantent toute la journée. Et puis, la nuit, c'est un autre ballet sonore, une autre symphonie, parce que on a les hippopotames avec un son caractéristique, les hyènes, les lions qui font cette espèce de gros son rauque et caverneux parce qu'ils expulsent tout l'air de leur cage thoracique, certains babouins qu'on entend. Et donc, on apprend comme ça très vite à reconnaître quel est quel son, qui appelle qui. Débarrissement d'éléphants et donc évidemment la nuit fait plus frais donc les animaux communiquent un peu plus, ils sont un peu plus actifs et c'est un spectacle sonore assez incroyable qui vaut largement le spectacle visuel de la journée.
Mais alors vous me dites que vous campez au milieu de tout ça, quand vous êtes avec votre petite tente au milieu des sons de lions, d'hippopotames et d'éléphants, ça vous fait pas peur?
Oh bah non, pas du tout. Au contraire, c'est toute la quintessence de ce mot magique qui est safari. Voilà, safari, ça veut dire voyage en swahili, et ça veut dire à l'origine des voyages de chasse qui ont été créés au Kenya. Ça veut dire installer une tente tous les soirs. Bon, maintenant c'est des tentes, c'est toujours les mêmes grandes tentes de safari, mais qui sont installées dans des lodges. Mais c'est donc profiter de la nature au plus près avec tout le confort anglais. Puisque c'est à l'origine quelque chose inventé par les chasseurs anglais et américains, profiter de tout le confort moderne, entre guillemets, mais dans un environnement de camping au cœur de la nature. C'est ça le safari. Et donc, non, au contraire, puisqu'on vient pour ça, on vient pour cette expérience magique du safari qui est à la fois un voyage, mais
malgré tout, je suis peut-être un peu bloqué là-dessus, mais quand on campe là où il y a des lions et des éléphants, s'ils viennent rôder autour de la tente, qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, on peut les voir la nuit. Ils passent tranquillement. Il faut juste pas, pour les, en ce qui concerne les hippopotames, il faut juste pas se mettre entre eux et l'eau, parce qu'ils sont de notoriété publique. L'hippopotame a un mauvais caractère, ce qui est plutôt vrai. Hein. C'est un des animaux les plus dangereux d'Afrique.
Ouais, c'est vrai que si on se met sur son chemin, quand il rejoint l'eau, il vous écrase. Il fait pas de.
Il aime pas ça. Ouais. Sinon, en fait, ce qu'il fait, il profite de la fraîcheur du soir. Pour venir brouter. Donc, évidemment, autour des lodges, l'herbe est bien grassouillette et bien verte. Donc, il se rapproche assez près des tentes. Ouais. Bon, on fait avec. Mais il faut faire avec parce qu'on est chez eux, on est invité chez eux.
Ouais. Mais alors, quand vous avez un lion qui passe devant votre tente, vous, ça vous fait rien ? Vous trouvez ça sympa ? Vous regardez et vous faites une photo ?
Alors, quand on fait un lion, on ne sort pas de sa tente. Hein. Quand on voit un lion passer, on ne sort pas de sa tente. Non. Mais quand on le regarde passer, oui. Mais. Ah. Ils sont généralement assez discrets, ils passent assez vite. Si un lion, et c'est exactement comme nos chats à nous, hein, s'ils veulent pas être vus ou entendus, vous ne les entendrez pas, vous ne les verrez pas, pourtant ils seront là.
On va continuer à explorer avec vous dans un instant, Jean-Pierre Didec, la Tanzanie. C'est jusqu'à 18h. Pierre, je vais le faire plusieurs fois, je pense, je ne sais pas pourquoi. Pierre-François Didec, jusqu'à 18h, nous sommes en Tanzanie, pardonnez-moi.
16h, 18h, et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Tous les jours, un grand voyage sur Europe 1. Aujourd'hui, nous sommes en Tanzanie. Et je voudrais vous parler d'un endroit incroyable. C'est le cratère du Ngorongoro. Alors, il faut imaginer au nord de la Tanzanie un volcan, un volcan gigantesque, aussi grand que le Kilimandjaro, qui monte à environ 6000 mètres d'altitude, la plus haute montagne d'Afrique. Mais un volcan qui va vivre une immense catastrophe. Lors d'une éruption gigantesque, le volcan va s'effondrer sur lui-même. Et donc, il va laisser derrière lui, béant, un cratère immense. Et ce cratère, il s'appelle aujourd'hui le cratère du Ngorongoro. Il fait 20 km de diamètre et plus de 600 mètres de profondeur. C'est un paysage incroyable. Mais ce qu'il y a de plus fou, c'est qu'au fond de ce cratère, aujourd'hui, il y a des animaux de toutes sortes, qui sont en quelque sorte enfermés dans ce cratère. Alors, ils peuvent sortir s'ils voulaient vraiment, mais avec les falaises, les montagnes qu'il y a, c'est compliqué. Et donc, vous avez une sorte d'immense arche de Noé. Au fond du cratère, plus de 25 000 animaux. 25 000 animaux de tout poil. Alors, il y a des lions, des zèbres, des éléphants, des gnous, des buves, des gazelles. Et tout ce petit monde vit ensemble. Bon, en se dévorant de temps en temps, hein, parce qu'il faut bien, manger. Mais
faut croûter, hein.
Mais le spectacle est, je vous assure, absolument incroyable. C'est une des plus grandes concentrations animales du monde. Et certains disent tout simplement aujourd'hui que c'est la huitième merveille du monde. Alors le Ngorongoro, c'est un spectacle infini, vraiment, que je vous conseille si vous allez en Tanzanie. On peut y descendre, mais il faut faire attention. Il vaut mieux avoir un guide. Et puis le guide vous emmène en voiture. Et le vrai petit regret, c'est que vous ne pouvez pas descendre de voiture parce que c'est extrêmement dangereux, évidemment. Donc vous regardez ça depuis votre véhicule. Les seuls qui peuvent descendre au fond de ce cratère incroyable, ce sont les Maasai, parce qu'ils ont le droit d'y descendre pour faire paître leur bétail. Et surtout, selon la légende, les Maasai n'ont pas peur des lions.
Et si on partait sur Europe 1, 2 heures d'évasion avec Philippe Googler.
Nous sommes en ligne avec Pierre-François Didec, qui est réalisateur et qui a beaucoup filmé la Tanzanie et ses habitants. Les Maasai, ils ont toujours cette réputation de ne pas avoir peur des lions ?
Même en ville, parce qu'il n'est pas rare de croiser beaucoup de Maasai en ville. Et cette réputation de tueur de lions fait que les Maasai à Dar es Salaam, dans les grandes villes tanzaniennes, trustent tous les métiers de gardiennage.
Ah oui.
Donc ils cultivent leur look de Maasai, donc la grande couverture rouge, les perles, les bracelets, le bâton, et ça avec un soin de dandy. Ils ont même des ruelles entières de magasins pour eux avec perles, couvertures.
Ah oui.
Parce qu'il faut qu'ils aient cette prestance de Maasai pour pouvoir obtenir des postes de gardien, alors gardien d'entreprise, gardien de villa. Et ça, c'est essentiellement les Maasai qui font ces métiers-là. Donc, il y a Maasai des champs, les vrais Maasai, si on peut dire, et les Maasai des villes, qui sont aussi des vrais Maasai, mais qui ont la panoplie, on va dire, du Maasai pour pouvoir cultiver cette légende.
Ah, c'est étonnant. Et alors, la Tanzanie, ce qu'on dit peu, c'est que c'est beaucoup d'ethnies, ce pays. 122 ethnies qui sont sous un même drapeau et qui vivent incroyablement en paix, en fait.
Oui, en Tanzanie, on dit una moja, c'est-à-dire un seul sous le même drapeau, et c'est un des grands tours de force du Mwalimu, le professeur Nyerere, qui a réussi, au moment de l'indépendance, à fédérer toutes ces ethnies pour vivre en paix sous le même drapeau. Et effectivement, la Tanzanie est un des pays les plus pacifique, on va dire, de la région. C'est un pays qui n'a jamais été secoué par des grands soubresauts de guerre ethnique ou de guerre clanique. Mmh.
Ce qui les relie, c'est la langue, non ? Parce qu'ils réussissent à avoir une langue commune.
Oui, le swahili. Mmh. Et le swahili, c'est bien plus qu'une langue. Une swahili, d'abord, le swahili déborde sur bien plus que la Tanzanie. Hein. Kenya, on le comprend en Ouganda, tout l'est du Congo, le Malawi, la Zambie, le nord du Mozambique. Mais le swahili, c'est une culture, c'est une civilisation qui, depuis le XIe siècle, rayonnait sur toute la côte orientale de l'Afrique, presque de la Somalie jusqu'au milieu du Mozambique. Donc c'est cet héritage-là qui fait qu'à un moment, on adopte cette langue-là, qui est un mélange de bantou et d'arabe, qui est une langue assez facile à comprendre et à maîtriser.
Pouvez-vous nous dire deux mots de swahili, vous en êtes capable ?
Oui, Mimi si jambo na wewe. Je veux dire, moi je vais bien et toi comment vas-tu?
D'accord.
Et en swahili, on peut dire bonjour de plein de façons différentes en fonction que l'on s'adresse à un adolescent, un adulte, un homme, une femme ou quelqu'un de très âgé. Dans ce cas-là, si c'est quelqu'un de très âgé, on va être obligé de marquer une marque de respect profond et on va dire « shikamo », ce qui veut dire littéralement « je baise vos pieds ».
Ah, étonnant. Vous êtes passionnant, Pierre-François Derek. Restez avec nous. Dans un instant, on va continuer à explorer la Tanzanie.
Et si on partait sur Europe 1, 2 heures d'évasion avec Philippe Googler.
Nous sommes en Tanzanie sur Europe 1 jusqu'à 18h. Et évidemment, quand on parle de la Tanzanie, on ne peut pas oublier ceci.
Les neiges du Kilimanjaro.
Les neiges du Kilimandjaro de Pascal Danel, titre éternel, Nathalie Elal.
Oui, c'est un tube, un standard des 60s, hein, 180 versions dans le monde. Vous imaginez, certifié disque de platine, ouais, pour la version française.
Kilimandjaro qui est en Tanzanie, on précise.
Absolument. Hein. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que ce tube de Pascal Danel lui a été inspiré par un film qui date de 1952, oui, un film de Henry King avec Ava Gardner, Suzanne Hayward et Gregory Peck. Mais ce film lui-même a été inspiré par un livre, et ce livre, c'est une nouvelle signée d'un très grand écrivain qui est Ernest Hemingway. Alors j'ai eu envie de vous en parler parce qu'il y a parfois des livres comme ça qu'on a envie d'emmener avec soi, qu'on aille en Tanzanie, qu'on aille ailleurs qu'en Tanzanie ou qu'on reste d'ailleurs chez soi, par exemple cet été. Et c'est une nouvelle donc, qui raconte l'histoire d'un écrivain maudit, ou plutôt un écrivain raté. Il a épousé une riche héritière, il a espéré refaire sa vie, surtout faire éclore son talent. Il se retrouve au pied de cette montagne gigantesque, avec une jambe qui est en train de se gangréner suite à une banale éraflure. C'est même pas quelque chose d'héroïque, hein. Il n'a pas du tout été attaqué par un lion ni quoi que ce soit.
Ouais.
Il est juste égratigné et évidemment, ça se gangrène. Il sait qu'il va mourir et donc il va se remémorer son passé. Il fait en quelque sorte le bilan de son existence. Son esprit vagabonde de souvenir en souvenir, aidé par l'alcool. Sa femme est à ses côtés. C'est assez poignant. Il va mourir dans l'avion qui devait le sauver, écrasé contre la montagne.
Écrasé. L'avion est écrasé ?
Oui, absolument. Et en préambule à sa nouvelle, Hemingway a écrit ceci. Le Kilimandjaro est une montagne couverte de neige, haute de 6021 mètres et que l'on dit être la plus haute montagne d'Afrique. La cime ouest s'appelle le Masai Engage Engai, la maison de Dieu. Tout près de la cime ouest, il y a une carcasse gelée et desséchée de léopard. Nul n'a expliqué ce que le léopard allait chercher à cette altitude. C'est à lire absolument, c'est plein de poésie, c'est pour faire un bilan parfois, c'est très utile. Je trouve que c'est un livre à recommander, à mettre entre toutes les mains, parce qu'en plus c'est une nouvelle, c'est court.
Très bien. Donc les neiges du Kilimandjaro,
d'Hemingway,
et vu par Nathalie Elal.
Ce qui est encore mieux.
Merci.
Les neiges du Kilimandjaro. D'ailleurs, il faut aller vite les voir, les neiges du Kilimandjaro, parce qu'elles disparaissent petit à petit. Il en reste très peu aujourd'hui à cause du réchauffement climatique. Et le toit du Kilimandjaro est de moins en moins blanc. Nous sommes en ligne avec Pierre-François Didec, j'ai réussi enfin à dire votre nom sans l'écorcher, pardonnez-moi pour les fois précédentes.
Je vous en prie.
On pourrait en parler des heures, hein, de la Tanzanie, c'est absolument un univers infini. Il y a une zone dont on n'a pas encore parlé et vraiment que j'adore, moi, c'est Zanzibar. Comment vous raconteriez Zanzibar, vous?
Oui.
Zanzibar, c'est la deuxième Tanzanie. En fait, la Tanzanie concentre deux grands mots mythiques. Safari, qui est connu dans le monde entier, et Zanzibar, qui est connu dans le monde entier.
Ouais.
Et Zanzibar, c'est la légende, c'est les îles aux épices, c'est Unguja, Pemba au nord, et Mafia, qui est toute petite et toute tranquille au sud. Et c'est une deuxième Tanzanie, c'est-à-dire qu'il y a quand même très peu de pays d'Afrique qui ont à la fois cette richesse de vie sauvage à terre et une côte extraordinaire et des îles extraordinaires et toute la magie de l'océan Indien. Donc Zanzibar, c'est c'est des parfums, c'est une façon de vivre, une douceur de vivre, et c'est magique.
Et des couleurs incroyables. Moi, j'ai des souvenirs de, je crois que c'est les plus belles plages, les plus belles couleurs d'eau turquoise que j'ai vues.
C'est scintillant,
c'est sable. Presque mauve parfois, tellement c'est dans turquoise profond. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais c'est vraiment saisissant sur le sable blanc, c'est fabuleux.
Ah oui, moi je ne suis pas objectif, mais à choisir entre, on va dire, les Seychelles ou l'île Maurice et Zanzibar, j'hésite pas deux secondes, ça sera Zanzibar.
Vous avez de la chance de devoir choisir entre Seychelles et Zanzibar. vous avez des choix difficiles.
Oui, c'est vrai.
Il y a une richesse culturelle à Zanzibar.
Oui, il y a un grand mélange. On a retrouvé, alors à Terre, à Kiwa, on a retrouvé des tessons de poterie chinoise qui dataient du XIe siècle. Ça veut dire qu'il y avait déjà un commerce, il y avait déjà un monde avant l'arrivée des premiers explorateurs blancs. Puis ensuite, les Omanais, les Indiens, les Omanais sont venus à la grande époque de Simbad le Marin. Puis ils dominaient tout l'océan Indien. Ils ont même installé leur capitale à Zanzibar au XIXe siècle.
Tout à fait. Il y avait des échanges énormes avec toute cette partie du monde jusqu'à l'Inde. Ce qui fait qu'il y a un brassage et un métissage très important.
Oui, et une acceptation de l'autre qui va avec. C'est-à-dire, comme c'est une culture très mélangée, une culture qui très tôt a été ouverte au reste du monde, en tout cas tout l'océan Indien et l'Asie, il y a une acceptation, il y a une compréhension des différences des uns et des autres qui fait que moi, je ne connais personne qui ne se sente pas bien à Zanzibar. Tout le monde a sa place, tout le monde trouve sa place.
Merci beaucoup, Pierre-François Didec, de nous avoir raconté la Tanzanie que vous aimez tant. Ça se sent que vous adorez ce pays. Et j'espère qu'on aura l'occasion de vous retrouver en ligne parce que vous en parlez merveilleusement. Merci, au revoir.
Bonne journée, au revoir.
Bonne journée. À suivre sur Europe 1, les saveurs de la Tanzanie. Et peut-être passera-t-on par Zanzibar.
Oui,
on va
peut-être
voir ça. Avec Emmanuel Jarry et toute la bande de voyageurs. À tout de suite. Tous les jours sur Europe 1, entre 16h et 18h, deux grands voyages. Un en France, entre 16h et 17h. Un au bout du monde, entre 17h et 18h. Et nous sommes en Tanzanie, un pays dont on ne se lasse pas de parler. Et nous allons plonger Emmanuel Jarry, qui est journaliste, gastronome, à l'origine du programme « C'est meilleur quand c'est bon » sur Internet. Nous allons la plonger...
Ah, vous me plongez
dans l'île aux épices,
oui.
Vous devriez être contente.
Ah oui, bah oui, j'adore. Alors c'est vrai que Zanzibar, l'île aux épices, déjà quand on dit Zanzibar, ça fait rêver, puis on rajoute l'île aux épices, ça fait une deuxième couche. Alors on l'a dit, c'est un archipel, Zanzibar, et ça a été longtemps le premier pays producteur de clous de girofle au monde. C'est les Omanais qui avaient... lancé les productions au 19e siècle. Et puis au moment de l'indépendance, après la Révolution, les terres ont été redistribuées aux habitants qui ont poursuivi les cultures de girofliers.
C'est pas facile à dire, le girofliers.
Mais aussi, en fait, ils ont créé des fermes aux épices dans lesquelles ils mélangeaient plein de... Comme on trouve sur la côte Malabar, en Inde, plein d'épices. Donc, parce que tout pousse à Zanzibar. On trouve du curcuma, de la vanille, du gingembre, de la muscade, du poivre. Et c'est intelligent, ces systèmes de jardin d'épices, parce qu'en fait, les épices ont besoin les unes des autres pour pousser. Par exemple, le poivre pousse sur les troncs d'autres arbres, peut-être les girofliers. Et puis, par exemple, la cardamome, elle a besoin d'ombre, la frondaison des arbres un peu plus haut. Donc voilà, ça fait un mélange. Et c'est un des attraits de Zanzibar. Quand on visite l'île, on peut aller visiter ces jardins d'épices.
Et puis, ça sent bon.
Les villes sont très merveilleuses pour ça. En plus, alors, les clous de girofle, ça pousse tout en haut des arbres et on cueille des boutons de fleurs avant l'éclosion. On les fait sécher. Alors, les hommes, les femmes se réunissent. On les sépare. Ça fait des grappes, on les sépare et puis on les met sur des nattes et on les sèche encore comme ça de façon traditionnelle et en deux jours le parfum se développe avec le soleil, donc ça c'est très beau. Et évidemment ces épices, elles ne sont pas destinées uniquement à l'exportation, on les consomme sur place, notamment le curcuma qui est une racine qu'on réduit en poudre et elle permet de cette poudre de parfumer le riz, de colorer le riz. On mange beaucoup de biryani, alors ça vient peut-être d'Inde mais aussi beaucoup du sultanat d'Oman.
Et donc c'est quelle couleur le curcuma?
Ah bah c'est jaune, c'est une jaune. Belle couleur jaune.
Et ça a quel genre de goût?
Ah bah, c'est plus, ça colore plus que ça ne, que ça donne du goût. Enfin, il y a un petit goût et tout, mais je sais pas, Nathalie, si vous connaissez bien le goût du curcuma.
Je connais bien parce que j'avais fait un livre là-dessus.
Mais
sur
oui,
les
je
épices.
Me souviens.
Non, en fait, je trouve que c'est une épice intéressante. Ça a été longtemps utilisé comme substitut au safran, mais parce que
oui,
c'est
le
beaucoup
safran
moins
des
cher,
Indes,
beaucoup moins cher que le safran, bien évidemment. C'est, ça donne à peu près la même couleur. Donc souvent, il fallait pas se tromper quand on ne connaissait pas bien les épices. Aujourd'hui, on sait distinguer. Mais surtout, le curcuma, il a une grande mode aujourd'hui. C'est une grande tendance parce que on lui a attribuer des vertus anti-cancer.
Ah oui,
oui, absolument. Marié avec la pipérine du poivre, ça tombe bien. Deux épices ensemble, on a dit que c'était excellent, notamment pour certains cancers de la prostate et autres.
Mais ça doit être bon pour les papilles et pour le corps, la cuisine, c'est important.
Mais les épices sont très bonnes
oui,
pour le corps.
Mais oui, c'est vrai aussi, c'était dans la pharmacopée autrefois. Ouais. Et donc en fait, à Zanzibar, bon, voilà, on retrouve ces riz sautés avec des fruits secs, des épices, etc. Et on les associe beaucoup aux poissons, alors ouais. Le poisson grillé, etc. Mais moi j'ai un souvenir, j'ai visité Zanzibar en 1998, et j'avais atterri, je ne sais pas trop comment, dans un bagage qui était tenue par une japonaise. Vous voyez, on a dit qu'il y avait beaucoup de cultures à Zanzibar qui ouais. se mélangeaient. En fait, cette japonaise, elle était tombée amoureuse d'un homme de Zanzibar. Donc, puis après, je crois qu'il l'avait quittée. Donc, elle avait construit trois bungalows qui étaient un petit hôtel. Et le soir, elle nous servait des sushis qui venaient, que les pêcheurs rapportaient sur la plage. Et elle les cuisinait comme ça, très frais. Au dernier moment, c'était merveilleux. On regardait l'océan turquoise et, comme vous disiez tout à l'heure, la mer émeraude. Et puis, on mangeait nos sushis.
Je veux bien l'adresse, moi.
Je sais pas. 1998, ça date un peu. Peu, il faut.
Ah oui, c'est vrai,
ouais,
d'accord.
Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité. Le soir, on nous apportait un seau d'eau pour se laver et puis des lampes tempêtes pour, voilà, pour pouvoir lire avant de s'endormir.
Alors, Zanzibar, c'est l'île aux épices, mais bon, c'est, comme c'est une île, j'imagine qu'il y a beaucoup de ressources qui viennent de la mer.
Oui, voilà. Alors, donc, les poissons dont je viens de parler, alors c'est vrai que les poissons, on les mange, mais c'est aussi un spectacle. Vous en avez parlé un petit peu de ces embarcations traditionnelles, les boutres, qui ont une voile unique, et puis c'est des bateaux, des pirogues très, très étroites à balancier. On ne peut pas tenir à deux. Moi, je suis partie une journée en mer avec les pêcheurs, donc on est les uns derrière les autres, et en fait c'est même une activité, j'ai trouvé à Zanzibar, de regarder le va-et-vient de ces bateaux, l'arrivée, le départ, hein, ça
c'est
fait
une
partie.
Carte postale,
voilà, c'est une carte postale. Et puis ce à quoi on peut assister si on se lève très tôt, parce que je trouve qu'on se lève avec le soleil, on n'attend pas 10h du matin à Zanzibar, c'est le départ des femmes qui vont cultiver les algues en mer.
Tout à fait.
Alors elles sont habillées avec le dinga, attendez, là ça m'échappe, c'est le kanga, pardon, c'est ces tissus très colorés, comme des pareo, et elle rentre dans l'eau avec les tissus, et donc voilà, et elle chante et elle vous salue, Jumbo, on a parlé des différentes façons de saluer à Zanzibar, moi je me souviens qu'elle nous saluait comme ça et elle chantait au loin, bon, et alors ce que j'ai appris c'est
qu'il y a des tas de métiers comme ça dans l'eau, hein. il y a les
oui c'est ça qui...
on va chercher des coques, on va tout chercher des algues, on va chercher, il y a tout plein de gens le matin, très tôt, comme ça, au bord de l'eau, et plein de métiers.
Ouais, c'est ça. Et en fait, alors, juste pour revenir sur ces tissus, c'est qu'il y a des inscriptions dessus. Zanzibar, c'est un pays musulman, essentiellement à 80%, les habitants sont musulmans, et les hommes ont le droit d'avoir 4 femmes. Et quand parfois les épouses se querellent, elles portent des tissus, et sur ces tissus, c'est l'homme, je pense, qui les achète, il y a des messages comme ça pour essayer. Les épouses se parlent comme ça à travers les...
Et pourquoi elles se parlent par le tissu? Elles ne peuvent pas se parler?
Je pense que comme elles se sont querellées, elles ne veulent plus se parler, donc elles font passer des messages comme ça. Oui, c'est ce qu'on m'a raconté.
Il faut tisser d'abord le message.
Ouais, non, en fait, ces tissus, on les achète au marché.
Il faut pas avoir un message urgent. Hein,
non, parce que je crois qu'il y a des messages types au marché. En fait, il y a plein de propositions de tissus. Il y a des messages types. Je ne sais pas, je t'en veux pas. Je ne sais pas, je n'ai pas le détail.
C'est fini entre nous.
Mais je sais qu'elles se parlent entre elles comme ça, les co-épouses. Alors, ces algues, autrefois, on les exportait, et aujourd'hui, avec le tourisme, on les consomme un petit peu, notamment de la poudre d'algues, on peut la mélanger par exemple avec de l'avocat. Alors ça, c'est vraiment pour les touristes, hein. Les gens de Zanzibar ne le mangent pas, ils m'ont dit que ça avait pas tellement, ça avait pas bon goût, mais en tout cas, donc voilà, on peut en faire aussi des gâteaux, et j'ai parlé de l'avocat, il y a énormément de fruits à Zanzibar, on peut faire des jus d'ananas, des jus de fruits de la passion, des jus d'avocat, parce que justement l'avocat, ils le boivent en jus.
Et donc, la fête de l'Aïd, ça compte?
Oui, en fait, je voulais en parler parce que c'est aujourd'hui.
Oui.
Donc, en fait, on mange beaucoup de poissons, sauf pour les grandes fêtes, comme aujourd'hui. On a tué beaucoup à Zanzibar aujourd'hui les chèvres, les moutons. Et donc, c'est un moment important. Toute la matinée, les familles ont cuisiné. Après, ils se sont regroupés et ils sont en train de manger, là, actuellement, le mouton à la braise ou la chèvre à la braise.
Et c'est aujourd'hui.
Et c'est aujourd'hui.
Donc, c'est le méchoui.
Ouais, tout à fait. Ouais. Mais alors, ce qui est assez important, c'est que les musulmans fêtent l'Aïd, mais par exemple, ils vont fêter les chrétiens fêtent l'Aïd, mais les musulmans fêtent aussi Noël. Vous voyez, donc il y a des échanges
entre les communautés religieuses.
C'est ce qu'on m'a dit en fait, et on m'a dit 80% de musulmans, mais en fait, la religion principale, ça serait la tolérance à Zanzibar. C'est ce qu'ils disent en tout cas.
Conditionnel.
Merci beaucoup Emmanuel Jarry de nous avoir fait voyager avec nos papilles. Dans un tout petit instant, nous voyagerons avec notre sac à dos et notre passeport et
oui, non, notre valise aussi.
Et notre valise aussi, oui, bien sûr, avec les bons plans de Jean-Bernard Carrier. À tout de suite.
Europe 1, 16h-18h. Et si on partait, Philippe Googler.
Nous sommes en Tanzanie jusqu'à 18h. Alors, on a tellement rêvé, Jean-Bernard, que maintenant, il nous faut les clés. Qu'est-ce qu'on va voir? Comment on fait? Comment on se débrouille?
On va commencer par comment on fait, déjà au niveau de l'aérien.
Oui.
On sera assuré quand on pourra y retourner.
Quand on pourra y retourner,
évidemment.
Parce que pour l'instant, c'est compliqué.
La ville principale, la capitale, c'est Dar es Salaam, une ville qui a des liaisons directes avec l'Europe. Donc, ça, c'est pas très compliqué pour y aller. Mais la plupart des touristes, des voyageurs, atterrissent plutôt à Arusha, dans le nord du pays, parce que c'est tout près des grands parcs animaliers. Donc, je ne sais pas s'il y a des vols directs au départ d'Europe. Il y en avait avant, je ne sais pas s'il y en aura de nouveau après. Mais par un système d'escale, on fait une escale, on arrive très facilement à Arusha. Voilà, donc c'est une astuce que je donne, c'est d'arriver directement à Arusha si vous êtes intéressé par les safaris.
Alors après, les parcs, ça c'est compliqué parce qu'il y en a plusieurs. Et une fois qu'on s'engage dans un parc pour aller voir des animaux, ça prend beaucoup de temps. Donc on se dit, mais lequel je vais voir? Il ne faut pas se tromper.
Ben, je vais vous faire partager mon expérience. Moi, j'ai passé 8 jours au départ d'Arusha, justement, et j'ai visité 4 parcs. Ça vous donne une petite idée. Moi, ce que je conseille, c'est d'y aller vraiment crescendo. On commence d'abord par le parc national d'Arusha. Ben, c'est à côté d'Arusha, la grosse ville d'Arusha. Mais ce parc-là, il est vraiment aux portes de la ville. Mais tout de suite, on bascule dans un univers très, très, très sauvage. C'est une mise en bouche, mais quand même spéciale. La seule différence, c'est que par rapport aux autres parcs, il n'y a que des herbivores. Vous n'allez pas voir des lions, vous verrez des zèbres, des girafes. Mais c'est tout. Voilà, donc ça vous met un petit peu en condition, ça vous prépare un peu à l'esprit safari. Passer un jour ou 2 jours dans ce parc d'Arusha.
C'est un rodage.
C'est un rodage, exactement, Philippe. Voilà, c'est vraiment le rodage. Alors ensuite, on passe à l'étape supérieure. On va dans le parc national de Tarangire. Et celui-là, c'est vraiment le parc qu'il ne faut pas louper si on adore les éléphants.
Ah ouais.
C'est la plus grande concentration au monde d'éléphants. Vous êtes sûr d'en voir, il y en a des milliers. Vous en verrez partout. Donc là, c'est vraiment les observations. Moi, j'en ai vu à quelques mètres du véhicule. C'est vraiment impressionnant. Et là, c'est des observations garanties. Et l'autre point fort de ce parc, ce sont les paysages avec les baobabs. Alors, ce n'est pas des petits baobabs de 2 mètres de diamètre, hein. C'est des baobabs qui font jusqu'à 10 mètres de diamètre. Ce sont des monstres, les monstres de la savane africaine. Et vous les voyez avec les éléphants qui sont à côté. C'est vraiment l'image type du parc national de Tarangire.
Donc, il a l'air bien
pas,
celui-là.
Ouais, il est pas mal. C'était l'un de mes préférés. Ça, c'est le numéro 2. Ensuite, en numéro 3... Alors, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus parce que je sais que vous n'allez pas l'aimer, Philippe.
Non.
Si, c'est un lac avec beaucoup de flamants roses.
Mais j'aime bien les flamants roses.
C'est bien les flamants roses, on voit ce que c'est.
J'ai rien contre les flamants roses.
Et beaucoup d'espèces d'oiseaux. Alors, je me suis dit, je ne vais quand même pas trop m'étendre là-dessus. Voilà, donc si vous aimez les oiseaux.
Pauvre Jean-Bernard.
C'est le parc national du lac Manyara. C'est un immense lac. Donc, évidemment, ça attire plein de flamants roses, d'oiseaux, etc. Donc, pour les observations de près des oiseaux, c'est le Manyara. Ça, c'est mon numéro 3. Et puis ensuite, pour terminer cette semaine en beauté, il y a le parc national du Ngorongoro, que vous avez évoqué tout à l'heure.
Mais il est incroyable.
C'est le must absolu, c'est la merveille naturelle, c'est l'un des endroits les plus somptueux de la planète, la 8e merveille du monde. Vous l'avez dit, je crois que c'est vraiment. Un décor d'exception, cet immense cratère qui fait 20 km de diamètre. Rien que l'arrivée sur le rebord du cratère, quand je suis arrivé en 4x4, c'était dingue. Rien que l'arrivée sur le rebord du cratère, on distingue cet immense creux de volcan, cette caldeira ouverte qui fait 20 km, c'est absolument magique. Et parfois, quand je suis arrivé, il y avait de la brume autour de cette... c'était en fin d'après-midi. Il y a cette espèce de brume qui enveloppe le rebord de la caldeira. C'est comme un rêve. Il y a un côté mystique presque. On entend les bruits des animaux. On distingue des trouées dans les nuages avec ce paysage-là et ces brumes qui émergent comme un truc un peu à la Tolkien, si vous voulez.
Et il y a des petits lodges au bord du cratère, tout en haut, qui
donc
sont incroyables.
Les hébergements, ils sont sur le rebord du cratère. Donc le soir, vous êtes en train de prendre consommer votre boisson et votre repas et vous avez cette vue panoramique sur le cratère. trouvez-moi un plus bel endroit au monde où il y a autant d'ambiance que ça. C'est pas
difficile.
Possible. C'est pas possible.
Moi, je peux chipoter sur un truc.
Chipoter, dites-moi.
Et ben, en fait, et comme c'est élevé en altitude, il peut faire frais le soir.
Oui, voilà, il fait frais. Exactement.
Prendre sa petite laine.
C'est plutôt agréable, ça, non ?
Ah ben, ça dépend si vous voulez, si vous imaginez en train de siroter votre apéro face au spectacle le soir, il faut prendre, un bon pull.
Exactement.
Et il y a même des cheminées dans.
Oui, il y a des cheminées, tout à fait,
dans les lodges.
Donc ça, on s'y attend pas, mais il y a un côté très un petit peu Noël aussi quelque part, un petit peu hivernal, oui, c'est vrai.
Voilà, bon, on fait les difficiles là quand même.
Ouais,
là,
on chipote,
pour chipoter. Alors, sinon, il y a le Serengeti qui est culte, le parc du Serengeti.
Alors, celui-là aussi fait partie des incontournables. Il est un petit peu plus éloigné, celui-là. Alors, le Serengeti, c'est un décor complètement différent. Ce sont d'immenses prairies, des prairies, mais à l'infini. C'est d'une platitude totale. De temps en temps, il y a un petit mamelon rocheux, ça s'appelle les Kopieux. Et c'est là que vous verrez les Big Five. Si vous voulez vraiment voir les Big Five, c'est au Serengeti qu'il
les
faut
Big
aller.
Five qui sont les...
Alors, on les rappelle, les léopards, les buffles, les lions, les éléphants et les rhinocéros. Vous êtes sûr de les voir au Serengeti. Mais, Philippe, le Serengeti, on y va aussi pour un événement incroyable, un spectacle mondial, la migration des gnous sur la rivière Mara en juillet-août chaque année. Les gnous, chaque année, sont par instinct, mus par leur instinct, vont chercher des pâturages plus fertiles. Donc, ils se déplacent vers le nord. Quand je dis ils se déplacent, c'est des troupeaux de 1,5 million bêtes.
1,5 million.
C'est un défilé, une cavalcade absolue.
C'est un
bruit. On entend le bruit, le martèlement des sabots. Le martèlement des sabots sur la savane. Ouais. Ça fait un nuage de poussière autour d'eux. Et ils traversent cette rivière Mara qui fait à peu près 50-80 mètres de large. Et ce qui les attend, des crocodiles énormes. J'ai vu des monstres
qui les attrapent au passage.
Des monstres qui les attrapent au passage. J'ai vu ça sous mes yeux. C'est le crocodile du Nil, c'était un nain à côté. Franchement, je m'en souviendrai toute ma vie. Ils sont énormes, ces crocodiles. Et ils sont là, tapis sur l'espèce de petit banc de
Et les gnous le savent.
Mais ils savent, oui, mais c'est l'instinct. Donc, il y en a toujours un. Ils passent en groupe parce que du coup, il y en a un qui sera prêt.
Et vous, vous êtes là et vous faites une photo.
Et j'étais là avec mon 400 mm et je jubilais parce que j'avais le grand spectacle de la nature sous mes yeux. C'est franchement incroyable. Alors, bien sûr, c'est tous les ans. Il n'y a pas de date précise pour ça. Il faut se renseigner auprès des agences de voyage qui vous expliqueront quand venir pour voir le spectacle de ces gnous.
Comment vous dites gnous, vous ? Comment vous organisez votre safari, alors ?
Alors, écoutez, il faut bien s'y prendre à l'avance pour un safari parce que la disponibilité des fameux hébergements dont on parlait n'est pas toujours garantie. Donc, il faut passer par une agence de voyage et une agence sérieuse. Alors, la question du coût, je vais vous le dire, tout dépend de l'hébergement parce qu'il y a de tout. Il y a la petite tente très simple, au lodge grand luxe, et tout dépend aussi de la localisation de l'hébergement. L'idéal, c'est d'être dans le parc plutôt qu'à l'extérieur du parc parce que les plus belles observations se font en début de matinée et au crépuscule, évidemment. Alors, bien sûr,
en gros, une fourchette.
La fourchette, en dessous de 300 euros par jour, par entrée des parcs inclus, vous n'aurez rien.
Oui, donc c'est quand même un petit budget.
C'est un petit budget, voilà. Alors, vous ne restez pas 3 mois non plus. La qualité des guides, j'insiste énormément, la qualité des guides, c'est eux les pisteurs. Ils ont un rôle majeur dans le bon déroulement de votre safari. Il faut prendre des guides qui sont bien payés, donc une bonne agence. Parce qu'un guide qui n'est pas qualifié, qui n'est pas motivé, vous ne verrez rien du tout. Ils sont vraiment fascinants, les guides, parce qu'ils ont un œil. Ils arrivent à vous détecter un animal caché derrière les bosquets. Vous ne verrez jamais rien. Et eux vont pouvoir s'approcher. Ça, c'est super important. Un autre critère important, la qualité du véhicule. Je vous déconseille fortement les minibus. Prenez des véhicules type 4x4 à toit ouvrant, vous aurez un angle de vue fabuleux. Et puis attention au nombre de participants, Philippe, c'est important. Pas trop de monde à l'intérieur. Vaut mieux payer un peu plus cher pour être que 2, 3 ou 4 dans le véhicule. Parce que si, comme moi, vous voulez rester une heure à faire une photo sur des oiseaux ou sur un buffle, tandis que vous, Philippe, vous voulez bouger vers un autre point d'eau, pour voir d'autres animaux, ça peut créer des tensions à l'intérieur du véhicule. Donc attention avec qui vous voyagez, demandez quels sont les autres participants.
Merci beaucoup Jean-Bernard Carrier pour vos bons conseils, pour nous donner les clés pour organiser un bon safari. On va se quitter là. Hein, on a envie de rester en Tanzanie.
Je serais bien resté encore.
On a encore plein de choses à dire, mais on pourrait rester 2 heures sur la Tanzanie. Merci à tous. À demain.